France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Quelques jours avant le 21 juin, nous vous proposons une série sur l'été, sur les réalités diverses de cette saison et sur les représentations qui l'entourent, aujourd'hui, quand la douce chaleur laisse place à une certaine angoisse. Oui, il y a de l'angoisse dans l'été, ou du moins un certain vague à l'âme. Et ce n'est pas dû seulement à l'ambiance de fin d'été, où il faut revenir à la normale, au moment où ça va s'arrêter, à ce terme qui nous hante un peu tout l'été. De cela, nous avons un peu parlé dans notre premier épisode. Il y a d'autres choses encore, pas si douces, lovées dans l'été. Une chaleur oppressante qui semble parfois tout recouvrir. Je crois d'ailleurs la percevoir dans l'été de Vivaldi, moins serein, me semble-t-il, que le printemps. Il y a aussi ce farniente un peu mou, alors que, se dit-on, on devrait être dans l'apothéose des sens et des émotions. Les étés déçoivent parfois, on ne s'y sent pas aussi bien qu'on l'avait anticipé. D'ailleurs, le cinéma nous montre volontiers des excitations estivales qui tournent à vide ou qui tournent mal, dans L'effronté de Claude Miller ou dans L'été meurtrier de Jean Becker. Est-ce un ennui qui n'aime pas se reconnaître? Quelque chose de pulsionnel qui cherche son chemin en nous troublant? Une tristesse sourde comme un « mais qu'est-ce qu'on fait là dans des villes et des quartiers surchauffés et même à la plage, ramollis par les températures dans la répétition des jours ?» Essayons de comprendre un peu. Bonjour Véronique Naoum-Grapp.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue des mondes contemporains, vous avez travaillé sur des émotions complexes, vous étiez à l'école des hautes études en sciences sociales, n'est-ce pas? Ces émotions complexes qui vous intéressent, vous avez écrit des choses passionnantes et fait des émissions ici avec nous, tout aussi passionnantes je trouve, ce sont par exemple l'ennui ou l'ivresse. Et bien ce matin, vous nous parlerez de l'été. Bonjour Jean-Didier Urbain.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, professeur émérite de l'Université Paris-Cité. Vous avez eu aussi une autre carrière dans des organismes publics, notamment à l'Observatoire National du Tourisme, pendant 20 ans, c'est vrai?
Oui, c'est vrai.
Waouh! Vous avez publié des livres sur les voyages, mais aussi sur la plage. Je renvoie vers notre site pour toutes les références des ouvrages de nos invités.
On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une location. Il ne nous restait pas grand-chose. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant. Et on regardait les bateaux, le matin on se réveillait tôt, sur la plage pendant des heures, on prenait de belles couleurs.
Michel Jonas, Les vacances au bord de la mer, un titre de 1975. Qu'est-ce que ça veut dire, le cœur gros, Véronique Naoum-Grapp?
Là, on sent, on sent toute l'esprit. Le souvenir à la fois d'une puissante nostalgie de ce moment en famille, où on sent que les gens ne sont plus là, le temps a passé. Donc c'est la nostalgie, donc il y a une espèce de... C'est poignant, on a envie de chialer. Et en même temps, le souvenir, c'est le souvenir donc d'enfants qui traînent au bord de la mer. Et voilà, les moyens sont trop limités, ils ne peuvent pas se payer les glaces, les fiestas, des gens beaucoup plus favorisés. Et il y a une espèce de flânerie, et comme a dit Victor Hugo, il a dit la flânerie c'est la vie, mais la vie c'est pas très marrant, et donc au cœur des vacances il flâne, et en flânant c'est tout, on se marre pas parce que où on est, qu'est-ce qu'on fait, quel est le sens de tout ça, Et d'ailleurs, Edgar Morin avait écrit « La vacance des grandes valeurs fait la valeur des grandes vacances ». Et d'une certaine façon, la problématique des vacances, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une histoire de corps. C'est aller dehors pendant l'hiver, au boulot, entre métro, ascenseur, bagnole, etc. À quel point on est dedans, à quel point on est enfermé dans du dedans. Et tout à coup, le corps, pour les mômes, c'est très important. On va dehors, en vacances, c'est le camping. On s'ouvre, on est dehors, on flâne. Le temps devient... Oui, ce flou dont vous avez parlé, Ramolli, une espèce de puissance comme ça, voilà, et ça suffit l'idée d'aller dehors, c'est déjà un vertige. Et le deuxième vertige, c'est partir. Et après, si on s'ennuie, c'est un deuxième moment, mais l'idée de partir, l'idée de vacances, mais c'est, il y a un vertige, l'adjectif partir, si vous le prononcez bien, c'est comme si on vous prenait par la peau de la nuque et on vous balance par la fenêtre et vous êtes dans un vertige extraordinaire. Partir, c'est mieux que la fugue encore, puisque c'est, il n'y a pas l'opprobre de la fugue et de la fuite. Et c'est partir, c'est un truc. Donc le rêve, les vacances, c'est un rêve. Et pour les gens du Nord, c'est un rêve d'été. C'est un rêve de Sud. C'est un rêve, on part toujours. C'est, il l'avait dit, Serge Danet. Les ethnologues, les journalistes et les vacanciers vont vers le Sud. Et les retraités pour s'y installer. C'est un rêve de Sud. C'est un rêve de soleil.
Donc c'est un
rêve
un
de
raté,
sieste.
Vous diriez.
C'est la sieste contre la mort. C'est la sieste contre la mort. Ah. Et c'est toujours un peu raté, mais pas forcément. Et dans le souvenir... Michel Jonas, nostalgie, pleure. Ouais. On le regrette quand même. Même quand c'était raté,
c'est
on le regrette.
C'est ça qui est beau dans cette chanson. Je pense que vous êtes d'accord, Jean-Didier Urbain. C'est que c'était beau quand même. C'était bien. Il y a du plaisir. Il y a beaucoup de douceur. Mais le cœur gros.
Le cœur très gros parce qu'il est non seulement au bord de la mer, mais il est au bord de tout. Au bord des palaces, au bord des restaurants, au bord de ceux qui dépensent.
Lui, les autres, c'est ça
les
notre
autres,
problème.
Bah, c'est ça aussi, oui. Il l'évoque assez fortement, il me semble.
Oui, oui.
Et donc, c'est effectivement, il y a une part de rêve, il y a une part de... Mais avec cette limite, justement, c'est que c'est le bord. C'est le bord de la mer, donc il regarde les bateaux, parce que c'est au-delà. Hein, là, lui, il est où finit la terre, comme on dit, Finistère. En grec, on dit agrothalassa, c'est-à-dire le bout de la mer. Nous, c'est le bout de la terre, et pour lui, c'est le bout. C'est le bout, il est au bout du chemin.
Oui.
Et il pourra pas aller plus loin, il le sait.
Et les autres...
Socialement, il est fait pour rester sur la frontière.
Donc oui, c'est la barrière sociale,
ouais.
Mais c'est aussi le
pas
fantasme.
Seulement,
c'est... Pas seulement, bien sûr.
Non, non, bien sûr, parce qu'on parlait de migration, ce sont aussi des migrations ratées, si vous voulez. Les vacanciers, ce sont des migrateurs qui reviennent. Ce ne sont pas des migrants. Mais au fond d'eux, il y a peut-être le rêve de rester là où ils vont. Ils ne le peuvent pas. Ils sont là pour un petit moment. Hein, et ce petit moment, il n'est pas forcément si riche que ça, si distrayant, si roboratif que cela. Il peut être profondément frustrant et déceptif, je dirais. Hein. En l'occurrence, moi, ce que je ressens beaucoup chez Jonas, outre de la nostalgie, c'est de la déception. C'est de la profonde déception, voire du désespoir.
Il y a cette idée que les autres, outre que socialement, sans doute, hein, mm-hmm. ils les voient avec plus d'argent, faisant plus de choses. Mais derrière tout cela, il y a le fantasme qu'il y a des gens qui réussissent leur été. Il y a des gens dans les casinos, il y a des gens très bien habillés, il y a des... alors qu'on ne sait pas du tout si ces gens vont très bien, mais il y a ce fantasme, c'est ce fantasme qui fait mal aussi, de se dire, l'été, il faut que ça pète, il faut que ça réussisse, il faut que ça explose, il faut qu'il y ait de la jouissance, et il doit y avoir des gens qui sont là-dedans.
Oui, oui, absolument, ça, la part fantasmatique est évidente, mais parce qu'il y a un projet qui lie tout ça. C'est l'idée de dépasser la frontière, passer de l'autre côté, commencer une autre vie ailleurs. Que ce soit dans les palaces, que ce soit sur un bateau, c'est de toute façon dépasser ce qui est le bout du monde pour le petit Jonas avec sa pelle et ses râteaux qui regarde tout ça et qui rêve effectivement d'aller ailleurs. Hein, c'est là que les vacances deviennent des rêves de voyage parce qu'on a envie de changer de vie, c'est une autre vie.
Alors les vacances, c'est aussi l'aventure. Mais parfois dans l'aventure amoureuse... on a senti déjà, quand ça nous est arrivé ou quand c'est arrivé à d'autres, que c'était pas tout à fait ça. Enfin, c'était juste pour les vacances. Et puis, on aimerait bien que, etc. Je vous propose d'écouter sur ce tendre et difficile sujet un extrait de La vieille fille, film franco-italien de 1972, réalisé par Jean-Pierre Blanc, avec Annie Girardot et Philippe Noiret.
C'est chaud.
Quel jour on est aujourd'hui ?
Aujourd'hui, nous sommes jeudi.
Vous êtes sûr ?
Oui. Je compte les jours et il m'en reste plus deux jusqu'à dimanche. Nous sommes jeudi.
quand même. C'est dommage que vous partiez. Je m'étais habitué à vous.
C'est pourtant pas une femme liante. Je suis pas facile d'accès. C'est comme ce ponton. J'ai une nature méfiante. Je suis sauvage.
Sauvage? Moi non.
Tu suis?
Moi non.
Vous ne savez rien de moi. Je ne sais rien de vous. C'est là tout le charme des relations de vacances. En 3 jours, on se quitte. Et c'est comme ça, on n'y peut rien, vous verrez. Et une fois rentré, on reprend ses occupations.
Ah, vous habitez Paris? Moi aussi. Des relations de vacances, ça finit pas forcément à la fin du mois d'août.
Qu'est-ce que vous entendez là, Véronique Naumgraff?
Il y a un système d'images dans lequel on baigne avec le, je pense, depuis surtout l'après-guerre, et qui est résumé par la chanson aussi, Shabadabadad, et cette image d'un couple amoureux qui court sur la plage, voire nu, en chantant Shabadabada, en s'élançant l'un vers l'autre. Et au fond, dans les histoires d'amour, les amoureux, ils vont tout de suite prendre un pot, même s'ils se rencontrent dans Paris, et ils rêvent de partir, ils rêvent de changer, d'aller justement dans cette, en haut de cette montagne,
puis
au bord de
fou,
cette
quoi,
plage.
On prend la bagnole, voilà, on se tire.
Exactement. Et parce qu'il faut enlever le carcan du social autour de soi pour enfin être sous la lune. Et avec le rêve d'été, le rêve de vacances si poignant l'hiver, puisqu'on travaille pour ça. Pourquoi on s'emmerde à travailler, prendre le métro, tout ça? On met de côté pour les vacances, justement. Donc c'est un rêve poignant. Et ça y est, on y est, ça y est, on est parti. Et le sable gratte. Et l'amoureux, on est hanté par le fait que oui, ça va durer que le système des vacances. Et même le paysage merveilleux, oui, ben on y est comme ça, assez platement. Il est lui-même installé dans sa propre réalité plate. Et souvent en vacances aussi, l'idée c'est de, on traverse l'espace, mais aussi pour aller vers une autre réalité. Par exemple, ce rêve du village d'enfance, ou de la nature, ou de l'histoire, les pyramides, ou de la rencontre, aller dans les grandes expositions. Aller dans ce départ, la vraie vie, comme vous dites, rêver d'une autre vie qui serait la vraie vie, c'est aussi aller retrouver une espèce de goût des fraises dans le jardin de l'enfance, le village de l'enfance, revenir dans la forêt et se balader main dans la main. Il n'y a pas que la plage. Et là, évidemment, c'est une tellement puissante rêverie, tellement organisée dans un monde où les images arrivent tout de suite pour nous déflorer tous les paysages, puisqu'on sait, on sait même comment le soleil se lève sur Mars, on a le drone qui nous a filmé, ou la machine, on sait le fond des mers, toutes les images sont là. C'est pas du tout comme Wilfried Tessiger quand il a fait son voyage au début du siècle dans le désert d'Éthiopie, où c'était vertigineux. Il a dit, il y a pas d'image, il découvrait tout, il y avait pas d'image dans sa tête. Or nous, les vacances, c'est vraiment, on a des images et il faut aller dans la réalité du paysage des images. Nous voudrions plonger au fond de l'écran pour voir si ça ressemble à ce qu'on a cru que c'était quand, en plein hiver, au bord du fer et périph, on a vu une grande affiche qui nous montrait la mer, le soleil, le cheval qui galope, la belle femme nue, cheveux au vent, courant vers son amoureux, Shabadabada. Et on se rue, on veut savoir si ça correspond, et toutes nos vacances, c'est essayer de tester cet écart entre tout ce système d'images qui nous envahit dès l'âge de 0 ans, puisque même pendant la grossesse, la maman regarde les images, et qu'on voit tout le temps, et qui nous montre la plage, la mer, le soleil, l'été, le rêve d'été. Et on travaille, on s'ennuie, l'hémisphère nord, qui rêve que du sud, s'ennuie à travailler pour plonger dans ce système d'images. Et il arrive, elle a peur, notre héroïne, la délicieuse Annie Girardot, un être absolument délicieux, elle qui joue si bien, et elle sent, elle se dit, où je suis, dans quel système de réel je suis, est-ce qu'il me connaît, est-ce qu'il connaît ma face sombre hivernale, est-ce qu'il connaît ma réalité profonde, et dès qu'il va la connaître, il va plus m'aimer.
On n'est pas tout à fait soi-même en vacances, donc il y a cette peur que le vrai soi soit resté à la maison.
Alors je crois que statistiquement, mais je pense que notre ami sociologue va nous...
Oui,
alors, plein de choses à je demander. Pense que les rencontres se font entre jeunes, soit par Internet, petit A, où ils mettent des photos d'eux sur la plage, tout nu, soit en vacances. Et plus on va loin, plus on rencontre. Parmi ces rencontres, il y a celle qui s'effondre une fois, évidemment, il y a aussi une chanson de Johnny, quand c'est fini, l'été est fini, l'histoire est finie, ciao, bye, bye, les Don Juan jouent de ça, ça n'était qu'un été, au revoir chérie, c'est pas grave. Toi, c'est, voilà, pauvre Sarah, je vois la nuit, le brouillard se lever dans tes yeux, ciao, bye, bye, dit le Don Juan, content que l'automne arrive pour quitter sa dulcinée qui l'a séduite et qui commence à l'embêter, à l'ennuyer. Donc, mais beaucoup de rencontres se terminent en union sérieuse. Donc, c'est un peu un mythe, c'est aussi une image, cette idée que en vacances, alors évidemment, l'été, on se sent plus beau, plus bronzé, plus ressemblant aux images. Tout le monde, les photos de soi qu'on choisit, c'est extraordinaire, toute cette jeunesse qui choisit des photos de soi-même, et c'est des photos de soi-même de très jolies filles, longs cheveux dorés sur la plage, toutes homologues. Le rêve est le même. Et donc, c'est le rêve de rencontre, au cœur de l'été, et de l'été, de son soleil brûlant, il y a les nuits chaudes d'été, où le monde devient comme un berceau sur la plage, le jeune couple, main dans la main, la première nuit blanche, c'est l'été, ce sera peut-être la nuit du nouvel an.
C'est
oui,
extraordinaire.
Mais l'été, et donc le main dans la main, regarde le, et à ce moment-là, ça c'est le rêve des nuits chaudes au cœur de l'été brûlant, et ça c'est un rêve poignant, et la jeune fille de 13 ans, de 14 ans, de 15 ans, c'est un système d'image dans lequel elle est prise, elle est dévorée. On peut penser qu'au 18e siècle, ou du temps de William Tessinger, il n'y avait pas de système d'image. Enfin, pas du tout, aussi
là, traversant le corps. On s'est bien installé.
Et donc,
installé,
qu'est-ce qu'on allait chercher? Non. Voilà, c'est des univers extrêmement différents.
Oui.
Et il faudrait étudier à quel point on est envahi, dévoré, traversé par cette séduction incroyable des images
des
de l'été.
Images. Jean-Didier Urbain, c'est vous qui nous avez suggéré de passer cet extrait de La vieille fille, le film de Jean-Pierre Blanc.
Oui.
Pourquoi?
Ben parce que moi j'ai pas pensé à Chabalabala. En fait, c'est vraiment, alors là, à propos de l'angoisse de l'été, je veux dire, c'est une angoisse qui se construit tout au long du film, parce que ce sont deux solitudes qui se rencontrent et qui n'iront jamais plus loin. C'est un échec. C'est-à-dire que ce fantasme de cette autre vie que seraient les vacances, comme lieu de socialisation, de rencontre, de partage, ne se produit pas. Ne se produit pas. Chacun reste arrimé à son monde d'origine. Il n'y a même pas un amour de vacances. C'est pas Aline, c'est pas écrit sur le sable.
Hein, c'est ça aussi comme image.
Et là, ça c'est même pas écrit sur le sable. Ça s'est pas écrit du tout. Ça s'est installé dans une petite routine éphémère qui accepte déjà sa dissolution. Un peu syndrome de la petite sirène dès la fin des vacances. Ça n'aura pas lieu, ça ne conduira à rien. C'est tragique.
C'est terrible.
Ben oui, c'est
Jean-Didier.
Mais absolument. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que les rencontres amoureuses dans ces conditions sont. Il y a une sorte de pacte tacite. C'est pas fait pour durer. Les relations durables se font jamais sur les lieux de vacances.
Ah, donc vous êtes bien plus radical que Véronique
Naumgrapp. C'est dans les lieux professionnels, les lieux de formation, c'est clair.
Statistiquement,
y compris les adultères d'ailleurs. Tout, c'est vraiment hors de, parce que cette espèce de scène ultra lumineuse est recommencée tous les jours, comme les vagues, hein. La plage, c'est un monde qui se reconstruit tous les jours. Donc tout peut être distribué du jour au lendemain. Même s'il y a des habitués qui se battent bec et ongles pour garder leur carré comme d'autres au camping, leur emplacement de caravane, c'est un monde qui se recommence. Donc rien ne peut durer dans ce monde-là. En tout cas, c'est un peu son rêve. C'est-à-dire tout est refaisable indéfiniment. Hein, comme la mer éternellement recommencée, les amours éternellement recommencés. Hein, c'est ça. Et donc, bon, là, je plombe un peu l'atmosphère.
Nous parlons de cette ambivalence aujourd'hui, de cette pointe d'angoisse.
C'est un peu cet échec de socialisation que supposé pourrait apporter, hein, de socialisation heureuse, que serait supposé apporter des lieux de vacances, en particulier la plage. Vous savez, la chanson de Woolsey aussi, je n'ai pas pensé, mais tous égaux sous le soleil, tous bronzés, tous pareils, etc. Eh ben non. En fait, quand on regarde de plus près, non. Hein, c'est un peu comme les acariens dans la moquette, on voit des détails de très près quand on s'approche, et ça se passe pas aussi bien.
Encore le problème des autres.
qu'on évoquait tout à l'heure.
Oui, je voudrais quand même, non pas contredire, parce qu'hélas, c'est vrai qu'il y a une endogamie des mariages ou des unions. Tout le monde dans la même... C'est plus la peine que les parents obligent les enfants à se marier de façon intéressante socialement. Ils le font spontanément, ils se marient entre eux. Bon, donc les amours de vacances ont ceci de particulier, surtout pour la jeunesse, qui quitte la famille, qui va dans des... qui rencontre plein d'autres gens en vacances, chose qui n'est pas vraie dans la vie ordinaire de l'année. Eh bien, à ce moment-là, il y a les premières rencontres. Et je voudrais faire le zoom, parce que je pense qu'en dans les sciences sociales, comme dans les autres sciences, si on zoome sur un espace-temps limité, mettons une nuit d'ivresse, on a d'autres phénomènes que on ne voit pas quand on zoome de très loin les statistiques de mariage. Donc zoomons sur la nuit de la première nuit blanche de la première rencontre amoureuse, même si moi je crois qu'il y a des véritables amours qui seront regrettés toute la vie, qui se sont quittés en disant ça n'était qu'un amour de vacances, qui est un bémol merveilleux, ça permet, comme je l'ai dit, à ceux qui n'étaient pas amoureux de s'enfuir en courant. Mais d'autres, ils vont voir le regret éternel, c'était une rencontre, que ce soit l'été, que ce soit la nuit, que ce soit sur un banc public, que ce soit au bureau, c'était lui, c'était elle, ça existe, sinon on n'en parlerait pas autant, ça existe, et c'est des regrets que les psychanalystes entendent pour des vies entières et qui n'ont pas fait de mariage. Mais c'est vrai que les vacances, les nuits d'ivresse, ce zoom sur la nuit qui vient, le fait qu'on est dehors, le fait qu'on est autre, mais pas cet autre. Qui est-il ? C'est l'identité de l'enfant. C'est l'enfant qui, jeune adulte, va raconter toute sa vie au nouvel amoureux qu'il a jamais raconté à personne. Et des échanges, c'est pas seulement l'ivresse érotique, et il y a aussi ça, il y a aussi un érotisme flambant des nuits chaudes de l'été. Et donc, toutes ces choses-là vont être vécues et vont prendre des proportions qui font que ça dépasse peut-être le fait que, oui, bon, bah, à la fin, faut tourner la page. Et peut-être que parfois, bon, bah, oui, il vaut mieux tourner la page. Parce que c'est vrai que ce sont des moments sociaux où des classes sociales différentes peuvent se croiser en maillot sur la plage, et donc et surtout quand on est jeune, qu'importe que l'autre soit X ou Y ou que sa famille n'ait pas l'argent pour aller au resto, ils sont jeunes, ils prennent un sandwich et ils foncent tout au bout de la plage où personne ne les regarde. Et c'est ce moment d'échapper du social, même si ça doit s'arrêter. Je pense quand même qu'il ne faut pas dire c'est toujours raté. Je pense quand même que c'est puissant, c'est des moments d'alternative, de vie différente, on s'est un peu décalé, ça ne change pas les grands mécanismes sociaux, mais c'est le temps passe, et au moins on aura eu trois nuits, trois jours de quelque chose qui là n'est pas un rêve. Parce que même quand c'est pour une seule nuit, c'est pour toujours. Le jeune couple qui se rencontre, peut-être que le lendemain ils vont se quitter, mais le soir, c'est toujours pour toujours la nuit qui vient.
Oui, je suis absolument d'accord. Simplement, pour moi, le rattache, c'est pas du tout négatif.
Alors, parle-nous du rattache, qui traverse vos travaux. Que ce soit dans les voyages, dans les maisons de famille, à la plage. Évidemment aussi, on pourrait se dire, il faut pas oublier, dans les villes, les banlieues, où il y a plein de gens qui ne partent pas en vacances, des jeunes qui traînent. Mais on pourrait se dire, dans les voyages, quand même, on a l'argent pour le faire, on n'est pas immobile, on ne se farcit pas sa belle-mère. Ça devrait être plutôt réussi normalement. Oui. Mais vous, c'est le ratage qui vous intéresse.
Si vous voulez, j'essaie de comprendre pourquoi on récidive. Pourquoi est-ce qu'on continue, par exemple, à voyager quand on n'a plus aucune raison vitale relevant de la nécessité de voyager? On voyage pour le plaisir. Cette construction du voyage-plaisir, elle ne vient pas de nulle part. C'est une réaction à un état de société qui fait que nous éprouvons le besoin de voyager. Je vous le disais encore là dans Le Monde là récemment, on se demandait pourquoi les voyages explosaient aujourd'hui. Et on explique ça par le low cost, etc. C'est pas l'économique. Il faut d'abord qu'il y ait une demande pour que cette économie puisse profiter de la chose. D'où nous vient cette envie de recommencer? C'est ça l'idée. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de rater, parce que le ratage, c'est là-dedans que je puise l'énergie de la récidive.
Ah, c'est nos ratages qui nous font recommencer choses
qui ratent. Et quant à la plage... Il y a un peu de ça, il faut voir Sisyphe heureux, bien sûr. Mais en plus, avec cette idée que la plage, justement, c'est un terrain neutre, je dirais, où les classes peuvent se rencontrer. Mais il y a un contrat tacite là-dedans, c'est-à-dire que ça se passe dans ces limites-là, et on n'en sort pas. Ce que j'ai pu observer en étudiant la plage pendant des années, c'est que les gens se connaissent à la plage. Chaque année, ils se retrouvent. Ce qui est très intéressant, c'est que dans l'intervalle, ils ne se voient pas. Ils retournent chacun dans son monde.
Et on n'est pas sûr qu'ils se manquent. Ça que vous
et absolument, parce que ces gens-là n'existent que dans ce monde-là. Oui. C'est une autre vie.
Mais les voyages, alors pourquoi il y a pas de porosité. Sentiment d'avoir un peu raté, que vous travaillez tant que ça? C'est-à-dire... En même temps, parfois on dit quand on se déplace dans l'espace, on a l'impression qu'on est parti plus longtemps.
Oui.
Mais ça, c'est un fantasme ou...
Non, enfin...
Et donc, peut-être que c'est déjà quelque chose d'énorme, le fait d'être parti dans sa tête et dans ce qu'on a observé plus longtemps, plus loin. C'est quand même ce qui fait que le voyage incite à recommencer. C'est-à-dire, c'est pas pareil que d'être dans la même maison de famille qu'on connaît depuis 10 ans. C'est pas les mêmes émotions. Et pourtant, vous travaillez sur tout cela en même temps et vous voyez du commun, je crois.
Oui, il y a du commun dans tout ça, bien sûr, mais bon, je veux dire, si vous voulez, rares sont les voyageurs comblés. Moi, un des rares cas que j'ai pu, et encore, on pourrait mettre quelques guillemets, c'est Lévi-Strauss. Hein, quand il arrive chez Nambikwara, il dit « je vois le contrat social in vivo ». Quand on a vu ça, on a tout vu, puisqu'on est à l'origine du monde. Voilà. Bon.
N'empêche qu'il dit « je vais les explorateurs ».
Oui, c'est ça. Donc, après coup, justement. Justement.
Il sera malheureux toute sa vie, ça change.
Voilà. Hein, mais autrement, un voyage, c'est toujours raté. C'est toujours raté.
Parce qu'on n'a pas été à l'endroit qu'on croyait qu'il fallait voir.
Parce que peut-être on n'a pas établi sans doute le type de relation qu'on souhaitait établir avec le monde. Et c'est-à-dire le monde, j'entends l'ailleurs, l'autre, soi-même, les siens. Toute cette espèce de d'accord à faire entre ces différents acteurs ne se produit pas. Ne se produit pas forcément. Ça peut se produire. Effectivement, les vacances, c'est aussi fait pour ça. C'est comme largement un espace-temps thérapeutique où on renoue des liens, où on les tisse, où on les renforce, où on les répare. Hein, que ce soit des liens conjugaux, parentaux, amicaux, sociaux. Tout ça, la plage de ce point de vue-là, c'est fascinant. Parce que c'est vraiment un grand atelier de réparation des liens sociaux altérés, affaiblis, etc. Bon, et puis une fois la réparation faite, eh ben, on repart. Hein, jusqu'à la prochaine fois, et c'est bien pour ça qu'on récidive, parce qu'on a besoin de réparer sa voiture de temps en temps.
Véronique Namougra.
Oui, disons, je le dirais différemment. D'abord, pourquoi l'idée de nomadisme, c'est-à-dire ces gens qui changent qui aiment tellement partir et les vacances, donc c'est peut-être une recherche perpétuelle, mais même ces retraités aux États-Unis qui partent, qui achètent la maison mobile et qui passent le restant de leur vie à bouger, à aller ailleurs. Le charme, la séduction du nomadisme, est-ce que c'est lié au fait que le voyage est raté? Non, c'est le fait que partir, c'est un enjeu tel qu'on ne peut jamais y renoncer, même quand c'est raté, donc on recommence. Mais c'est ce que vous dites, c'est qu'on passe sa vie à recommencer et à être en face de l'échec. Et je ne crois pas. Pourquoi? Parce que si on étudie l'espèce d'enfer du tourisme, le fait que, regardez dans nos sociétés, alors changeons la vie, on est dans le métro, le béton, le périph, le gona, prenons le bus, le RER pour aller à l'aéroport, on attend des heures pour prendre l'avion, on a la trouille pour atterrir, on en a un autre aéroport, un autre bus, un hôtel, il est au bout du monde, mais c'est le même hôtel, on monte dans le bus pour aller voir, enfin la pyramide elle est là, et quand on est en face de la pyramide, devant cette énigme, de cette énorme structure stupéfiante, on prend les téléphones, comme pour transformer l'être, l'énigme de l'être, du voir la pyramide, en avoir une photo qu'on a, et on va embêter tout l'hiver, tous les amis avec les photos de vacances. Regarde quand on a vu la pyramide, c'est la pyramide. Et on voit la pyramide, tout de suite une photo, parce que il faut transformer l'être en avoir, parce que c'est vertigineux de voir une pyramide. Mais si on accepte de voir la pyramide, et ça c'est beau, parce que ça veut dire, et je me souviens d'une discussion avec Robert Castel, il disait je suis pour que les gens partent en vacances, etc. Parce qu'il y a toujours cette tradition dans la sociologie, le mépris des objets, n'est-ce pas, la consommation, caca, une chose heideggerienne qui a traversé les philosophes post-marxistes. Qu'est-ce que c'est vulgaire de vouloir une télé, que les femmes veulent des... Oh là là, ce confort, qu'est-ce que c'est vulgaire. Et Robert Castel, il respectait le fait que des classes ouvrières qui avaient des souvenirs de grandes pénuries d'avant la guerre, ou avant la guerre du milieu du XXe siècle, dans leur famille rurale, grande pénurie, qui étaient très contentes à Plouzvel, partout, la machine à laver, et les vacances. Et alors après, on disait à Robert Castel, oui, mais ils vont dans des bus, des vacances. C'est les fameux touristes que les philosophes profonds plutôt crevés que d'aller dans ces bus de tourisme de prolo. C'est horrible, c'est le mépris total. Mais eux, et Robert Castel, il dit, mais oui, voir la pyramide. Et pourquoi pas? Et pourquoi ce serait raté? Et on voit que dans les vacances aussi, il y a un rêve très populaire, très profond, très profane. Donc c'est là où la valeur des grandes vacances vient de la vacance des grandes valeurs. Et qui est sortir de dans quel monde je vis, c'est ça pour cette question. Ouais. Et dans quel monde je vis, et je veux aller voir, et je suis prêt à prendre le bus, à avoir la trouille dans l'avion, faire pour aller voir la pyramide. Et c'est même une seule minute, mais avant de prendre la photo, je vais la regarder, je vais prendre un coup de poing dans le ventre, parce que dans quel monde je suis? C'est ça la question des vacances. Oui. Puisqu'on ne peut pas la poser l'hiver, quand tout tourne et tout est bloqué et tout est verrouillé dans le béton.
Il ne faut peut-être pas entendre trop vite dans ratage, Jean-Didier Urbain. J'ai l'impression que c'est ce que souligne Véronique Taougrappe. L'idée, une espèce de philosophie un peu arrogante qui méprise les conditions contemporaines du tourisme, du voyage, du confort en vacances, etc. Je crois que vous dites autre chose, en fait.
Ah oui, complètement. Oui, c'est... Oui. Non, mais complètement. Si vous voulez, dans le dernier livre, là, justement, comment nos voyages parlent de nous, je cite une vieille bostonienne, elle-même citée par l'historien Burstein, qui ne voyage jamais. Et on lui demande, mais pourquoi est-ce que vous ne voyagez pas? Et elle répond, mais parce que je suis arrivé. Et je pense qu'au fond, dans tout touriste, vacancier ou autre qui se respecte, quel est celui qui n'a pas dit, tiens, si je pouvais, je resterais bien ici? Il y a un migrant contrarié dans chacun. Mmh. Et ça, c'est peut-être le fond du voyage. Vous savez, c'est un peu le mythe d'Aristophane pour ce qui est de l'amour. On est privé de son double. Le voyageur, il est privé de son lieu. Ouais. Et quand il trouve son lieu avec lequel il va faire un couple, il reste. C'est arrivé quand même. Hein. Les ethnologues, l'ethnologie, elle est peuplée d'ethnologues partis pour en mission et qui ne reviennent jamais. Bon, donc il y a là quelque chose qui se passe. C'est comme Lévi-Strauss, à la limite, aurait peut-être pu rester. Mais bon, il n'est pas resté. Hein. Donc c'est ça, je pense, surtout, ce qui va déterminer, au fond, et c'est pour ça que le rattachement est éminemment positif, c'est-à-dire, tu es passé peut-être très très près, mais pas tout à fait. Il faut peut-être que tu fasses quelque chose. Tu passes un passage à l'acte. Hein. L'INSEE a suivi sur 3 générations comme ça des familles. La première fois, on vient passer un jour ou deux, on découvre un lieu en passant, on décide quelques années après d'y revenir passer 8 jours. La seconde génération va acheter une maison qui va être secondaire, etc. Et la troisième génération va venir s'installer. Hein, il y a ce qui parfois prend plusieurs générations est au fond peut-être ce qui est en chacun de nous. Hein, je dirais, hein, la phylogénèse récapitule l'ontogénèse là en l'occurrence, c'est-à-dire chercher ce lieu où l'on a envie de rester. Hein, cette expérience de topophilie dont parle Bachelard, une fois qu'on a trouvé son lieu, on y reste.
Bon, alors maintenant je voudrais qu'on parle vraiment de l'immobilité. Oui. Parce que j'ai justement de l'immobilité dont vous parlez, qui malgré tout n'est pas que joie exaltée. J'accueille dans ce studio pour la dernière partie de notre émission Céline Romadova, j'espère que je prononce bien.
C'est parfait, bonjour.
Bonjour, vous êtes une spécialiste de François Sagan sur laquelle vous avez réalisé votre thèse de doctorat de lettres modernes à l'Université Sorbonne Nouvelle. Vous avez co-dirigé un ouvrage collectif intitulé Bonjour Tristesse, du titre de ce premier roman.
1954-2024, voilà. Rendre hommage.
De fait, un livre publié aux éditions Classique Garnier en 2024. Eh bien, pour nous mettre dans le bain Sagan, dans le bain Bonjour Tristesse, écoutons un extrait de Bonjour Tristesse de François Sagan par Catherine Deneuve.
Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom, le beau nom grave de tristesse. C'est un sentiment si complet, si égoïste, que j'en ai presque honte, alors que la tristesse m'a toujours paru honorable. Je ne la connaissais pas, elle, mais l'ennui, le regret, plus rarement le remords. Aujourd'hui, quelque chose se replie sur moi comme une soie énervante et douce et me sépare des autres. Cet été-là, j'avais 17 ans et j'étais parfaitement heureuse. Les autres étaient mon père et Elsa, sa maîtresse. Il avait loué sur la Méditerranée une grande villa blanche, isolée, ravissante, dont nous rêvions depuis les premières chaleurs de juin. Les premiers jours furent éblouissants. Nous passions des heures sur la plage, écrasés de chaleur, prenant peu à peu une couleur saine et dorée, à l'exception d'Elsa qui rougissait et pelait dans d'affreuses souffrances. Mon père exécutait des mouvements de jambes compliqués pour faire disparaître un début d'estomac incompatible avec ses dispositions de Don Juan. Dès l'aube, j'étais dans l'eau, une eau fraîche et transparente, où je m'enfouissais, où je m'épuisais, en des mouvements désordonnés pour me laver de toutes les ombres, de toutes les poussières de Paris. Je m'allongeais dans le sable, en prenais une poignée dans ma main, le laissais s'enfuir de mes doigts en un jet jaunâtre et doux, je me disais qu'il s'enfuyait comme le temps, que c'était une idée facile et qu'il était agréable d'avoir des idées faciles. C'était l'été.
Je trouve la lecture est merveilleuse, qui est une espèce de froideur typique Catherine Deneuve. Et ce texte, enfin, c'est l'effet que ça me fait, hein. Je ne suis pas du tout spécialiste de Sagan, Céline Romanova, vous l'êtes, me donne l'impression qu'on ne comprend pas tout. Et du coup, cette froideur donne une énigme qui est dans le texte. C'est-à-dire, ça va pas si mal quand même. Enfin, je veux dire, elle est dans une villa blanche au bord de la mer. Tous ces gens ont l'air d'avoir un grand confort matériel. Elle se lave dans la mer de ce qui lui reste de Paris, d'une sorte de poussière imaginaire. Mais elle annonce la couleur tout de suite. C'est la tristesse. Comme si dans cette immobilité, parce que à part se baigner un petit peu, elle fait pas grand chose, il y a forcément la tristesse. Une tristesse légère, puisque c'est l'été, mais une tristesse quand même.
En fait, il faut bien comprendre qu'il y a une double temporalité. Le premier paragraphe, là, le tout début, où le premier paragraphe reprend le titre qui annonce aussi la couleur. Hein, on est tout de suite dans une tonalité tragique malgré tout. Se passe après le drame. Donc le lecteur est plongé dans la certitude que quelque chose de dramatique va se passer, mais il n'en a pas connaissance. Donc effectivement, certains critiques ont présenté Bonjour Tristesse un petit peu comme une sorte de roman policier où on a un mystère à découvrir, on a visiblement une mort qui est annoncée, et donc on va comprendre comment on en est arrivé là. Et puis, donc on a ce qu'on appelle une analepse, un retour en arrière avec la présentation du cadre spatio-temporel. Et elle dit qu'elle est parfaitement heureuse. Elle sort enfin du couvent, donc elle retrouve son père. Ils forment presque un couple mondain à eux deux. Et on est effectivement dans ce cadre de l'été avec le rapport à l'eau qui est un rapport de purification. Ce qui indique aussi que peut-être ils ont quelque chose de souillé, quelque chose qui a mérite d'être purifié aussi, en arrivant de Paris avec une moralité qui va poser problème, en tout cas dans le roman, dans la confrontation avec Anne qui va arriver et les rejoindre dans le cadre de leurs vacances.
Vous pensez que c'est lié à un événement ou c'est une tristesse ontologique, comme disent les philosophes, c'est-à-dire vraiment, elle découvre son être triste?
Alors, dans le roman, en fait, il s'agit pas vraiment d'un roman d'apprentissage, parce qu'elle n'apprend pas grand-chose, Cécile, donc la jeune fille. Ce qu'elle va apprendre, c'est un apprentissage plutôt psychologique, donc cette tristesse qu'elle ne connaissait pas, qui va après rester avec elle toute sa vie, et donc elle va connaître d'autres garçons après Cyril, mais elle portera en elle comme une sorte double de masque. Cette tristesse, c'est effectivement la façon dont Sagan envisage la vie. Elle dit, mais c'est terrible, on nous offre le ciel, les petits oiseaux, et puis on sait qu'on va nous les ravir à la fin, c'est une injustice cruelle, donc elle a vraiment conscience de sa finitude, et c'est ce qui a pu toucher d'autres auteurs comme Annie Ernaux, le prix Nobel, qui a lu Sagan, et ça a participé de sa construction d'adolescente et d'écrivain, et elle dit que justement cette désinvolture, mais aussi ce sentiment de finitude, a participé à sa construction, et ça l'a touchée. Et effectivement, Sagan, elle a l'idée que la beauté de la vie n'est que temporaire.
Et en co-dirigeant ce collectif Bonjour Tristesse aux éditions Garnier Classique, vous avez suggéré un pont entre 1954, date de Bonjour Tristesse de Sagan, et 2024. Qu'est-ce que Sagan nous dit d'aujourd'hui, selon vous ?
Ce qui peut paraître toujours moderne, évidemment, la question de l'avortement qui est évoquée par donc la future belle-mère, puisque Cécile va fréquenter donc ce garçon, et à l'époque il n'y avait pas de pilule, pas de préservatif, donc elle lui dit ce genre de distraction peut finir en clinique, donc on a plus ce genre de considération. Ce qui peut paraître moderne, par contre, c'est les rapports hommes-femmes, des rapports parfois de domination, qui ne se rejoue pas seulement dans Bonjour Tristesse, mais dans le reste de l'œuvre de Sagan. Parfois la santé mentale aussi, la façon dont les jeunes peuvent souffrir. Donc là, elle subit une forme de dépression, on dirait. Le Bonjour Tristesse, on l'assimilerait à la dépression aujourd'hui. Il y a question de beaucoup de dépression, en fait, dans plusieurs romans de Sagan. Donc voilà ce qu'elle peut apporter comme clé aussi aux jeunes lecteurs qui pourraient redécouvrir Bonjour Tristesse. Et c'est une œuvre qui, selon le fils de Sagan, est toujours autant lue.
Alors, je vais vous faire réagir un peu à cet univers de Sagan, Véronique Naoum-Grapp et Jean-Didier Urbain. Mais Véronique Naugram, vous nous avez suggéré un autre extrait sur le blues, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'été. Franchement, c'est l'angoisse. Et c'est même quelque chose qui a à voir avec la mort. C'est le texte d'Ivan Gontcharov, Oblomov, ce roman de 1859. Donc, je vous propose d'écouter justement un passage dont vous nous avez parlé. Et a priori, j'ai l'impression que c'est tout à fait autre chose que la tristesse de Sagan. Mais vous allez nous dire s'il y a un lien à faire malgré tout. Écoutez.
Le milieu de la journée est brûlant. Au ciel, pas le plus petit nuage. Le soleil est fixe au-dessus de la tête et grille l'herbe. L'air ne circule plus, épais, immobile. Ni arbre, ni eau, rien ne remue. Sur le village et les champs plane un silence que rien ne trouble. On dirait que tout est mort. Dans le vide résonne au loin la voix humaine. À 40 mètres, on distingue le vol et le bourdonnement du hanneton. Et dans l'herbe touffue, on entend comme le ronflement d'un homme qui dormirait d'un doux sommeil. Dans la maison règne aussi un silence de mort. L'heure de la sieste générale a sonné. L'enfant voit que le père, la mère, la vieille tante et la suite, tous se sont retirés chacun dans son coin. Celui qui n'a pas de retraite monte au fenil. Un autre est allé au jardin. Un troisième cherche la fraîcheur sous le vestibule. Un autre, enfin, de son mouchoir voilant son visage contre les mouches, s'endort là où l'abat la chaleur, où la fait choir le repas pantagruélique.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Véronique Naugram, est-ce que l'été de François Sagan, cette tristesse, n'a rien à voir avec le macabre d'Oblomov, le héros de Gontcharov dans ce roman de 1859, ou au contraire a tout à voir?
Tout à voir, dans des registres différents. Parce que l'échec secret, le pire de l'échec de l'été, c'est pas son ratage, que les choses correspondent pas aux images. C'est quand c'est réussi. Et c'est bien ce qu'elle dit. Puisque l'ombre et la poussière, dit-elle, de Paris, elle s'en lave dans l'eau, comme elle s'en lavera dans la vitesse, entre la vitesse et l'eau, et le corps qui traverse tout ça. Il y a une espèce de fuir. Le mot de purification serait exagéré même, il est un peu ridicule. Et c'est parce qu'elle aime trop ça, cette terre. C'est, tout est parfait. Et cette perfection, le fait qu'elle sait que ça va finir, ça c'est douloureux. Et dans la sieste, ici, la sieste, c'est midi. Elle a bien mangé, celle qui met sur son visage le voile. Elle a même, c'est midi, c'est le rêve des travailleurs, c'est le rêve qui travaille trop, il rêve de sieste. La sieste de midi, midi le juste qui pèse. Cette immobilité, c'est comme une mort. Mais c'est contre la mort de l'hiver, contre la vraie mort à l'hôpital, en hurlant dans le froid et la solitude. C'est une sieste qui est le comble de la vie. Et ce comble de la vie, c'est une espèce de mort. Et ça, c'est déchirant. Et j'avais aussi pensé au texte formidable de Dostoïevski sur les nuits pétersbourgeoises, où les gens de Saint-Pétersbourg, ils savent, il fait moche tout le temps. Il pleut tout le temps, il fait moche tout le temps. Deux jours, il fait beau, l'été. Et là, ils deviennent fous de douleur, parce qu'ils savent que ça ne va durer que deux jours, et ça leur fait horreur, finalement. Et
je pensais aussi. C'est pire encore qu'il s'est deux jours.
Et c'est pire. et c'est, je pensais à ces jeunes dont m'avait parlé un éducateur qui l'avait traîné pour leur faire montrer la mer, la beauté de la nature, parce qu'ils étaient toujours, toujours, toujours dans leur parking, leur béton d'une banlieue sinistrose. Et des jeunes, au lieu, certains, bien sûr, ont dit, oh, comme c'est beau, tout ça, et d'autres, horriblement déprimés, voulant rentrer dans leur béton.
Ah oui.
C'est trop beau. Et je suis passée à côté de ça dans ma vie, mais c'est douloureux. Et en fait, c'est quand c'est réussi que ça fait le plus mal, puisque ça va finir.
Jean-Didier Urbain.
Ben, tout est dit, ça va finir, c'est raté. Désolé. Je suis désolé, la vie est un jeu dont on ne sort jamais vivant. On le sait, on a perdu, hein, forcément d'avance.
Et vous pensez que Sagan a approché tout cela?
Ben, écoutez, moi je pense que ce qui est aussi bien dans le texte de Gontcharov que dans le texte de Sagan, ce qui est omniprésent, c'est la mort. C'est la mort. Et la tristesse, c'est déjà une première manifestation, je dirais, d'un deuil. Qu'il soit anticipé ou a posteriori, peu importe. Moi, je pense que la fin des vacances, c'est toujours un deuil anticipé. On doit se faire à la mort d'une séquence de vie qu'on ne revivra peut-être jamais, qui était une autre vie, qui a peut-être été absolument réussie, sauf qu'elle finit.
Oui, c'est l'année. Oui,
mais c'est pas le ratage, ça. La finitude n'est pas un ratage.
Le ratage, c'est très positif. C'est pour ça qu'on va.
De rythme global auquel on peut échapper.
Apporter un texte moi aussi.
Non, mais il est vrai que vous dites que le ratage est très positif.
Mais absolument.
Vous avez un rapport.
Non, non, non.
C'est une notion qui est malgré tout différent pour Sagan, c'est que
la spécialiste de Sagan, allez-y.
Les personnages sont des personnages heureux dans leur vie en général. L'été, Sagan dit, ce sont les vraies vacances. Donc, c'est un peu comme si le reste de leur vie était des vacances continues. C'est des personnages assez oisifs. Après, le père de Cécile travaille. Ce ne sont pas des héritiers non plus. Mais ils sont dans une sorte forme d'immobilité parce que ils ont la réussite sociale. Ils n'ont plus qu'à jouir finalement du temps présent. Et il y a quand Anne arrive dans la villa des vacances, elle dit mais c'est la maison de la Belle au Bois Dormant ici parce que il y a pas de bruit, c'est l'heure de la sieste effectivement comme dans le texte. Mais après il y a cette vitalité qu'il y a toujours chez Sagan. Ils vont au casino et donc le jeu, c'est le fait de risquer, c'est le défi, c'est la jouissance de l'instant présent qu'on trouve. Ils y vont évidemment en belle voiture, hein, c'est tous les clichés de Sagan. Elle-même dit dans Des Bleus à l'âme qu'elle a l'habitude de servir la panoplie Sagan, le whisky glacé et la Ferrari au soleil. C'est tout ce qu'on trouve dans Bonjour Tristesse et qui a fait son succès aussi.
Et c'est la mort qui rôde, vous iriez jusque-là chez Sagan, puisque ça vient d'être dit auparavant.
Bien sûr, c'est pour ça que ce premier paragraphe est si important. Quand elle rappelle la tristesse, il y a ce qu'on appelle une épanadiplose narrative, c'est-à-dire qu'on a le Bonjour Tristesse au premier paragraphe, et ensuite on rattrape l'histoire avec la mort d'Anne, et elle redit Bonjour Tristesse en pensant à Anne, donc, qui s'est suicidée en voiture. Et donc la mort, elle est présente un peu tout le temps, donc avec cette idée de sommeil qui est comme une chape de plomb sur la villa, avec forcément le couple habituel, Eros et Thanatos, puisque Cécile va découvrir l'amour pour la première fois, mais avec cette chape de plomb, et elle dit, ça s'est passé, il y en a qui trouveraient des raisons un peu bizarres, mais moi je sais ce qui était en jeu, c'était la chaleur, Bergson, Cyril, ou plutôt l'absence de Cyril. Et donc, on a cette idée d'absence, de manque, qui va, en fait, justifier le drame qui se joue dans Bonjour Tristesse. Et ce Sagan présentait son livre, quand elle était jeune autrice, comme la lutte de l'ordre contre le désordre. Donc, il y avait quand même quelque chose de moral au-delà d'une question philosophique, existentielle.
Sagan, c'est un objet anthropologique, sociologique. Je parle du texte. Hein. Le texte est à cette profondeur.
Formidable.
Pour vous,
et merci de nous le faire revivre. Je trouve que ce qu'il y a de très extraordinaire dans Bonjour Tristesse, c'est qu'elle met le point avec absolument une vérité, un manque total de narcissisme et une espèce de quelque chose qui vient de la tristesse, c'est-à-dire une intelligence qui naît de la tristesse et non pas d'une computation cognitive, etc. Et qui est que même quand on a tout pour être heureux, qui est le rêve des gens pauvres, qui dit si j'avais les moyens, sur la plage, j'aurais la grosse glace, on arrive avec le contraire de la chanson de Jonas, on arrive à l'autre pôle dans votre émission. Et donc, c'est comme si c'était musical. Et donc, on arrive avec la tristesse horrible des riches, c'est-à-dire que c'est là où l'ennui est le plus mortel, là où la douleur est la plus exquise, au sens de douleur exquise, c'est-à-dire la pire, c'est quand le rêve social d'été, d'amour, de confort, de beauté, ils vont au concert, ils vont au casino, ils vont dans la belle voiture décapotable, cheveux au vent, etc. Là se loge déjà la faille du malheur de vivre. Et parce que même quand tout va trop bien, justement il y a une espèce de danger qui plane, parce que, et donc c'est le malheur, et quand l'ennui et quand l'échec touchent le rêve social, là il y a un désespoir de fond. Mais ça veut pas dire qu'on ne va plus partir en vacances ou qu'on va rester dans le métro pour fuir ce désespoir de fond. C'est-à-dire que, attention, n'empêche que on reprend la voiture, bagnole découverte, cheveux au vent, et on chante la chanson de Johnny dans cette voiture, ce gars-là, cette fille-là, ils sont extra.
Jean-Didier Urbain, sur tout cela, sur Sagan notamment, comme...
Oui, écoutez...
comme Sagan sociologue, Sagan... Sagan au-delà du singulier, de cette jeune fille qui d'un milieu riche, dans une très belle villa. C'est un peu comme La Piscine, le film avec Romy
absolument.
Schneider.
D'ailleurs, toujours ce bain lustral, toujours.
Sagan fait toujours penser à autre chose, c'est ça ?
Il y a un troisième larron qu'on a oublié, il y a Eros, Thanatos, mais il y a Hypnose. Le sommeil qui fait le lien.
Et puis les drogues, hein.
Et oui,
excusez-moi. Oui. Je suis content parce que vous allez voir la chanson, ce sera justement un clin d'œil à ça.
Donc, je pense qu'effectivement, non, oui, parce que je voudrais pas qu'il y ait un malentendu autour de mon concept de ratage.
Allez, alors,
je voudrais pas.
Ayez le dernier mot pour bien nous expliquer.
Non, je veux dire simplement que quand on parle de la conscience de la finitude, c'est qu'on a compris que de toute façon, on est perdant. Et que le problème se pose, c'est comment être heureux avant de perdre. Au fond, c'est un peu ça, l'existence.
C'est-à-dire les années qui s'accumulent.
Les années qui s'accumulent, si effectivement je n'arrive pas à éprouver la moindre joie, à atteindre un quelconque objet, effectivement, là, je suis un raté dans le ratage. Enfin, je veux dire, c'est ça.
C'est pas ça, vous-même, quand c'est réussi, le fait qu'on finisse l'été en sachant que voilà, c'était encore un été.
Oui.
Il y en aura, mais il y en aura à un moment, il n'y en aura plus.
Voilà.
C'est ça que vous appelez le ratage.
C'est exactement ce que dit Paul Morand dans un petit livre qui était Comment apprendre à voyager sans argent. C'est au fond, le voyage, c'est une petite vie comprise dans la grande. Avec un début, un déroulement, une fin, qu'on peut recommencer indéfiniment. Hein, jusqu'à ce qu'on sorte de la grande vie. Vous savez, ce dont Pessoa disait, la vie est un voyage expérimental à contrôler. Bon. Mm-hmm. Les vacances, c'est un voyage expérimental qu'on essaie de contrôler. Et qui nous donne l'assentiment d'être maître de notre temps, maître de notre vie, maître de notre existence, jusqu'à mort sans suivre.
Des fraises, des cerises, un baiser d'ange au printemps. Mon vin d'été a toutes ses saveurs en même temps.
I walked in town on silver spurs that jingled too. The song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Summer wine.
Des fraises, des cerises, un baiser. Des saveurs en même temps. Enlève tes époux, fais-moi tout oublier, et je te donnerai du vin d'été. Vin d'été.
My eyes grew heavy and my lips they could not speak. I tried to get up, but I could not find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Summer wine.
Des fraises, des cerises, un baiser.
She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Summer wine.
Un
clin d'œil à Sagan. Vous nous le confirmez d'ailleurs, Céline Romadova. Il s'agit de la chanson Summer Wine, vin d'été, chanson de Lee Hazlewood que celui-ci a chantée avec Nancy Sinatra en 1966, souvent reprise ici. C'est la version de 2020 par Carla Luciani et Alex Capranos.
On parle bien de l'ivresse de l'écriture. Hein,
voilà, on va faire semblant de ne pas avoir entendu. Merci beaucoup, tous les trois, Céline Romadova, Véronique Naumgrapp et Jean-Didier Urbain. Les références de vos travaux sont sur notre site. Voici maintenant la chronique de Frédéric Worms qui nous parle cette semaine de poésie.
Comment expliquer les poèmes? Il y a un exercice scolaire en France qui a marqué toute l'histoire de la philosophie autant que de la littérature. C'est un exercice apparemment anodin et qui pourtant est très précieux. C'est ce qu'on appelle l'explication de texte. Et un bon professeur de philosophie, me semble-t-il, expliquera justement à ses élèves ou à ses étudiants que l'explication d'un texte, même philosophique, doit prendre garde non seulement à l'unité du sens, du problème, de la thèse défendue par le texte à tel point qu'il faut pouvoir la résumé en un titre, en une formule, et d'un autre côté, ne pas oublier surtout l'écriture de ce texte, ce qui fait que le style du philosophe reste quelque chose d'important, qu'il y a une surprise lexicale, qu'il y a la thèse est inséparable de la manière dont elle s'exprime, d'une invention conceptuelle, de la manière de poser des questions, de faire surgir les articulations linguistiques ou temporelles, de telle sorte que, par exemple, dans un texte de Bergson, il y a toujours au moins deux temps de la conjugaison des verbes, du futur, de l'imparfait ou du présent, ou dans un texte de Vladimir Jankélévitch, toujours, quelque part, un point d'exclamation. N'oubliez pas d'expliquer ce point d'exclamation. N'oubliez pas de dire pourquoi l'étonnement de Jankélévitch s'exprime littérairement dans la forme même du texte. L'explication de texte est donc absolument vitale pour comprendre l'unité de la pensée humaine qui réagit toujours à un étonnement profond et qui, en même temps, cherche à lui donner sens tout en lui donnant forme. C'est pourquoi l'explication des textes philosophiques nous renvoie toujours à un autre défi peut-être plus profond encore et dont à mes yeux elle est inséparable, qui est aussi l'explication des textes poétiques eux-mêmes, évidemment de tous les grands textes de l'humanité et peut-être de toutes les œuvres d'art, mais l'explication des poèmes est quelque chose d'absolument fondamental et redoutable. Pourquoi ? Parce que le poème, en tant qu'unité, en tant qu'œuvre d'un poète, bien entendu, doit toujours harmoniser justement ces deux dimensions, peut-être au plus haut degré. Il doit harmoniser l'étonnement, la surprise formelle dans le langage, à tel point que pour certains, le poème est d'abord un geste sonore et musical. Jean-Paul Sartre, d'ailleurs, y voyait la seule littérature qui ne transmettait pas de message. Il avait tort, il s'est lui-même réfuté plus tard avec les poésies de la négritude, qui sont des messages politiques. Et d'un autre côté, le poème est justement l'expression aussi d'une émotion profonde des êtres humains existentiels, amoureuses, littéraires elles-mêmes, ou politiques et morales. Et donc l'explication du poème est un défi pour le philosophe qui le renvoie à tout son métier, à l'explication des thèses et des position de telle ou telle personne et de tel ou tel penseur d'un côté et d'autre part à l'expression humaine dans l'art, à l'explication aussi des films, des statues, des œuvres musicales et de l'ensemble de l'expression humaine dans son histoire en unissant les deux dans l'explication d'un poème. Ainsi, par exemple, dans le poème d'Apollinaire qui tient en un vers peut-être le seul alexandrin des alcools mais qu'il faut renvoyer à l'ensemble du volume car c'est un très grand livre, Alcool est l'unique que cordeau des trompettes marines. Oui, peut-être dans ce vers qui est un alexandrin presque unique, y a-t-il toute la portée de l'expérience des alcools au début du XXe siècle ou encore dans Le bonheur des mots, ce grand poème de Pierre Reverdy qui illumine la liberté des mers juste au cœur de la Seconde Guerre mondiale et qui commence aussi par un alexandrin étonnant. Je n'attendais plus rien. Quand tout est revenu, les hommes se sont mis à parler. Il y a, même chez ces poètes, de l'image imprévue et surprenante. Il y a l'étonnement du sens, il y a le bonheur des mots.
Merci Frédéric Worms. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger et Sam Bakias, avec à la technique Timothée Hubert. Petit clin d'œil aussi à Daphné Leblond, notre réalisatrice d'hier. C'est à elle que nous devons le choix de Summer Wine comme chanson finale. Cette émission a été préparée en particulier par Anna Felpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Shaima Giboire, Armance Bourquin, Antoine Ravon et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.